Le Mac du Tarn sur CFM Radio, bonjour à tous et bienvenue. Au mois de décembre, en dehors des fêtes de fin d'année, il y a deux grands rendez-vous dans le calendrier, on va dire, politique. D'une part, les régionales, c'est début décembre, le 6 et le 13, si je ne raconte pas de conneries. Et puis, la grande conférence sur le climat qui va régler, soi-disant, tous les problèmes. C'est la fameuse COP21 dont vous entendez parler un peu partout ces derniers temps, la 21e conférence des partis qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Un des invités que l'on a aujourd'hui dans le MAG est parti de Pamiers en Ariège pour monter à Paris, la capitale, y porter un message. Jacques Arthuis est avec nous dans le MAG. Bonjour.
Bonsoir.
Jacques. Ça va?
Très bien. Merci de votre invitation.
Mais c'est avec plaisir qu'on te reçoit ici. Et également avec nous, Claude Le Guéranic de la table de la rue sans nom.
Bonsoir.
Bonsoir, Claude. Ça va aussi?
Très bien.
Très bien. Bon, alors, avec vous, on va aborder un énorme sujet, un vaste sujet. Jacques Arthuis, une aventure, la chevauchée pour le climat. C'est ainsi que s'intitule le projet.
C'est ça.
Le projet que tu mènes, Pamiers, Paris, à cheval. C'est quoi? 900 kilomètres à peu près?
À peu près.
Une trentaine d'étapes.
Un peu plus, oui, mais c'est de cet ordre-là, tout à fait.
Oui, bon, l'autoroute, c'était trop facile.
Oui, et puis c'était
le train,
hors
voilà,
de prix.
L'avion, quand on parle de climat, c'est compliqué. Et donc, du coup, toi, tu as choisi d'y aller.
Ce que je sais faire, puisque moi, j'ai un centre équestre, moniteur d'équitation. Donc, depuis à peu près plus de 35 ans, les chevaux, c'est mon métier. Donc, j'ai fait avec ce que je savais faire, le cheval.
Bon, en dehors du fait que tu saches le faire, est-ce qu'il y a une autre raison à ce choix? Le mot d'équestre, pourquoi?
Alors oui, pourquoi aller à Paris à cheval pour rejoindre, entre guillemets, la COP21? Parce que il m'a semblé, quand j'ai eu l'idée de ce projet, que au regard des enjeux concernant la biodiversité dont on allait beaucoup parler pendant cette conférence des Nations Unies, on allait s'apercevoir qu'on allait parler finalement d'animaux virtuels. Et la présence de chevaux, animaux vivants, même symboliquement avec quelques-uns à l'ouverture de cette conférence le dimanche 29 novembre, me paraissait être un symbole fort et une manière de dire qu'on ne parlait pas que de réalité virtuelle ou de réalité filmée, mais que les dangers que vit la biodiversité, qu'elle soit animale, végétale ou minérale, sont réels. Mmh. Alors, de là à dire que le cheval, animal, biodiversité, d'élevage, en France en tout cas, vit en danger, c'est pas tout à fait exact. Mais moi, c'est avec ceux-là, ces animaux-là, que je peux porter mon message.
Est-ce que d'une part, le fait que tu fasses ce périple-là de 900 km, bandin, à cheval, toi tu reposes tes jambes à toi? Et de deux, je sais pas, peut-être le cheval, c'est aussi un moyen de rentrer en communication avec les gens sur la route, peut-être?
Alors, c'est évidemment, là, on a parlé du but final. Maintenant, il y a toute la chevauchée par elle-même. Et c'est vrai que l'animal cheval est un des derniers grands animaux qu'on peut rencontrer, même dans les zones urbaines. Moi, j'ai un centre équestre, avec mes collègues des centres équestres. Ça fait quand même plusieurs décennies qu'on remet un petit peu l'animal dans la ville avec le poney ou avec le cheval pour les adultes. Et c'est vrai que le fait que les gens qu'on met à cheval aient contact avec l'animal, aient un contact avec un animal vivant, les sensibilise peut-être encore plus. Mais au-delà de cette population qui pourrait déjà être sensibilisée, c'est effectivement les rencontres qu'on va pouvoir faire et qu'on a déjà fait, puisqu'on a déjà fait une semaine de voyage, il en reste encore 5. Les rencontres qu'on va faire pendant cette chevauchée sont aussi très importantes parce que, et on l'a déjà constaté, les gens nous voient passer, tiens, qu'est-ce que vous faites, on raconte rapidement notre histoire, on a un autocollant qu'on distribue, on expose un peu le motif de notre périple, et il y a des gens qui découvrent déjà qu'il y aura la conférence des partis, qui découvrent que effectivement les gouvernements des pays du monde sont en train de s'intéresser à la question, on l'évoquera sûrement un peu plus tout à l'heure, et découvre aussi que avec le cheval, il y a quelque chose de très sympathique qui se fait.
Avant de parler de la conférence en elle-même et de poursuivre aussi un peu sur votre projet, je voulais savoir, est-ce que vous faites partie d'un parti politique du style Les Verts, Europe Écologie Les Verts?
Pas que du style, oui, effectivement, j'ai une double casquette.
Je dis du style parce que maintenant, c'est plus là, Les Verts.
Je ne sais pas si ça doit rentrer dans notre débat aujourd'hui. Ça,
on y reviendra.
Oui, effectivement, quand je suis à pied, je suis militant écologiste à Europe Écologie du Vert. Je suis le porte-parole de mon groupe départemental en Ariège. Je suis membre du bureau exécutif régional. Mais quand dans la journée je suis à cheval, ou à pied devant le cheval, parce qu'on marche beaucoup à pied dans une randonnée, je suis un équitant, un citoyen qui essaye d'avoir un langage qui parle à tout le monde, et c'est pour ça que j'ai choisi le cheval. Je fais indirectement de la politique, parce que je ne fais pas la chevauchée non plus, juste histoire de dire « regardez comme je suis beau ».
C'est pas avec l'étiquette des verts que vous faites.
Non, cette étiquette, elle est très claire, c'est quand je suis à pied le soir dans cette émission, je me revendique comme militant politique, et en même temps, dans la journée, voilà, je suis représentant du monde du cheval. C'est d'ailleurs à ce titre-là que j'ai obtenu le soutien de la Fédération Française d'Équitation, qui non seulement, dans son objet, participe du développement du cheval et des activités équestres, mais a déjà depuis longtemps sensibilisé au développement durable l'ensemble des cavaliers qui sont ses licenciés.
Est-ce que tu peux juste relever un tout petit peu ton micro ?
Je peux relever un tout petit peu mon micro, c'est mieux comme ça.
Impeccable. Alors, moi je retiens le terme citoyen que tu as utilisé, on reviendra dessus, mais tout d'abord la COP21, donc cette fameuse 21e conférence des parties qui se tient donc à Paris, de fin novembre à grosso modo mi-décembre. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quels sont les principaux objectifs, les enjeux de cette conférence ?
Alors, elle s'appelle COP21 parce que c'est plus facile à dire. En fait, son vrai nom, c'est Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Il y a depuis trois décennies de mémoire des scientifiques qui ont alerté d'autres scientifiques, des gouvernements, les Nations Unies, pour dire... À la vitesse à laquelle on utilise les énergies carbonées et à la vitesse à laquelle la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente, on va vers des vrais problèmes pour la planète. Faisons très large et très simple. À la suite de ce constat, qui est à peu près aujourd'hui partagé par l'ensemble de la communauté scientifique, il y aura toujours des climato-sceptiques, mais ils deviennent de moins en moins nombreux, diagnostic qui est de plus en plus expliqué de manière plus ou moins pédagogique aux citoyens qui veulent bien entendre, on a constaté qu'il y avait des décisions à prendre. Donc les Nations Unies ont organisé ces conférences, elles s'appellent COP, Conference of Parties, 21e du nom, donc il y en a eu 20 avant, et c'est d'elles que sont nés le protocole de Kyoto, le protocole de Nagoya, qui ont commencé à être des véritables décisions politiques. On attend beaucoup, on y reviendra sans doute, de celle de Paris, qu'elle prenne aussi des décisions politiques. On sait que toute décision politique, si elle n'est pas supportée par des décisions financières, ne mène à rien. Donc on verra un peu ce qui va se passer, mais on attend quand même effectivement beaucoup, d'autant que, à force d'attendre, on va vers des échéances dont on ne mesure pas forcément les conséquences directes, déjà pour un certain nombre de personnes, et indirectes pour d'autres.
Claude ?
Alors effectivement, les gouvernements en attendent beaucoup, mais toi, est-ce que réellement tu espères quelque chose ?
Ah moi j'espère, oui bien sûr que j'espère quelque chose. Je ne suis pas non plus dupe. Je n'attends pas qu'il se passe des choses extraordinaires et que demain le cœur sur la main ou la main dans la main, l'ensemble des gouvernements qui travailleront à Paris. Fasse que on va vers une économie décarbonée et que on puisse laisser facilement un avenir à cette planète et un avenir aux générations futures. Je sais qu'il y aura encore beaucoup de travail, mais je n'imagine pas quand même que cette conférence accouche de rien du tout, comme ça a été le cas dans les précédentes et particulièrement celle qui nous a marqué il y a 4 ans à Copenhague. Elle accouche de rien du tout. On ne peut plus se permettre de louvoyer, de tergiverser et d'attendre en disant oui, on a bien sûr la bonne volonté, mais on verra un peu plus tard. Non, le un peu plus tard est déjà dépassé. On est dans le ici et maintenant avec une immédiateté qui demande de prendre des décisions fortes. On sait très bien, on a aujourd'hui le problème de l'accueil des réfugiés syriens qui est un drame pour les gens qui sont obligés de fuir leur pays pour rester en vie et qu'on essaye tant bien que mal en Europe avec des réussites et des échecs d'accueillir. Si demain matin, il faut accueillir en Europe 100 à 200 millions de réfugiés climatiques. L'histoire des réfugiés syriens actuels sera une douce plaisanterie. Or, c'est ça qui nous pend au nez. Et qui, non seulement qui nous pend au nez, mais on sait déjà que ça va arriver. Donc, il ne faut pas simplement dire on va arrêter d'émettre du carbone avec notre mode de vie parce que ça va déconcentrer ce CO2 dans l'atmosphère et on va régler le problème. Non, il faut déjà penser à aux conséquences de ce qu'on n'a pas fait depuis 15 ou 20 ans, et là se préparer pour dans 10, 15 ou 20 ans à accueillir des millions de réfugiés dans des zones où on pourra survivre parce que d'où ils viennent, les zones seront absolument plus vivables.
Quel message vous souhaitez apporter à Paris là pour cette conférence, votre message personnel,
c'est celui de la chevauchée.
Oui.
Celui de la chevauchée, il est ni plus ni moins que celui qui va être apporté par des dizaines d'autres milliers ou centaines de milliers de citoyens qui vont à leur échelle faire leur petit truc. Si on va farfouiller sur Internet, on verra déjà qu'il y a des sites qui recensent ça. Même moi j'ai eu un mail du ministère de l'Agriculture, pas direct, hein, mais qui appelle à recenser les projets liés à l'agriculture, et ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui va demain dans sa commune organiser une réunion pour sensibiliser les gens, un professeur des écoles qui va dans sa classe expliquer à ses enfants ce qu'ils peuvent comprendre, à ses élèves de la conférence, il va aller dans ce sens-là. On parlait de citoyens, moi je fais un acte citoyen.
Donc c'est après, de remettre les citoyens au centre aussi de ces problématiques-là.
Après les citoyens, il y a les décisions en haut qui sont prises par les politiques. Je vis en démocratie, j'ai voté à chaque fois, j'ai élu des gens, ouais. C'est à eux de prendre les décisions.
Bien sûr.
Mais comme je peux constater quand même, à travers à la fois mon âge et puis ma carrière de militant politique, que quelquefois les politiques ont tendance un peu à tergiverser, je leur dis « Oh les gars, on n'a plus le temps là, donc moi je mets ma petite pierre à l'édifice comme le font beaucoup d'autres. » Et je pense que c'est cette généralisation des petits pas, des petites pierres, des petites gouttes, on appelle ça comme on veut, qui va encore plus inciter nos décideurs à décider vraiment.
Oui, Claude, tu souhaites rajouter ?
Oui, alors pour être concret, tu parles de décision forte. À quoi tu penses concrètement, voilà, pour qu'on arrive à toucher...
Qu'est-ce qui va en ressortir ?
Voilà, par-delà des grandes phrases qui sont importantes parfois, mais en concret, c'est quoi ces décisions fortes ?
On sait qu'on doit cesser d'émettre autant de CO2 dans l'atmosphère. Donc, quel est le moyen dont on dispose pour inciter à ne pas consommer des énergies carbonées, sinon d'abord la fiscalité. Comment se fait-il que dans notre pays, on en soit encore à se dire que oui, très bientôt, alors c'est dans les jours prochains, mais nous les écologistes, ça fait des dizaines d'années qu'on le dit, comment ça se fait qu'on a continué à subventionner le diesel à partir du moment où la fiscalité est incitative à sa consommation par rapport aux autres carburants pour les véhicules ? Comment ça se fait qu'on l'avait déjà dit. Moi, je me rappelle, j'avais pas 20 ans, on faisait des manifestations à vélo et on disait, on avait un slogan qui était simpliste, mais au moins qui était clair, c'était l'auto, ça tue, ça pollue et ça rend con. On a constaté que l'auto tue, que l'auto pollue. Pour le reste, je laisse à chacun apprécier. Donc, on est rentré dans l'ère du tout automobile. On est en train de prendre conscience que le tout automobile, c'était n'importe quoi. On redéveloppe de nouveau des transports en commun. Les villes s'équipent de tramways, de métros, de lignes de bus, etc. On sait ce qu'il faut faire pour limiter l'usage, la diffusion de CO2 dans l'atmosphère. On sait aussi que pour pouvoir inciter les ménages à utiliser des énergies renouvelables, il va bien falloir soutenir ce secteur. Or, on l'a un petit peu soutenu à un moment où ça avait le vent en poupe après le Grenelle de l'environnement, mais derrière, on n'a pas eu de décision forte. Comment se fait-il qu'un des principaux pays d'Europe et la cinquième puissance économique du monde, à savoir la France, ne soit pas à la pointe du développement des énergies renouvelables ?
Mais tout simplement parce que la plupart, ou en disant les principales entreprises majeures françaises, sont dans le domaine, on va dire, des énergies fossiles. Areva, Total, PSA, donc les industries automobiles. Est-ce que vous pensez vraiment, bien que cette conférence se passe à Paris, est-ce que vous pensez vraiment que la France va s'engager, en tout cas au niveau des actions, dans quelque chose de concret, sachant que ça met aussi à mal son économie ?
Mais gouverner, c'est décider, c'est prévoir. Si effectivement le gouvernement démocratique qui a été élu démocratiquement en France n'a d'oreille que pour les grands groupes industriels qui leur chantent leurs chansons, et ils ont raison de le faire, tout le monde fait ça, qu'ils fassent du lobby, c'est leur boulot. Mais que le gouvernement pour lequel j'ai voté Hollande au deuxième tour, me disent « Ah mais non, je ne peux pas inciter Areva, EDF », enfin, ils changent de nom tous les 6 mois, donc on oublie un petit peu, à dire « Nous voulons, nous, gouvernement élu du peuple, que vous engagiez cette politique-là. Oui, bien sûr, vous allez avoir des adaptations difficiles, mais de toute façon, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu, donc vous allez le faire. » C'est ça, faire de la politique. Et ce qu'on attend, moi, ce que j'attends, comme l'a dit un ami hier à Sivens, ce que j'attends du président Hollande, c'est d'y retrouver le candidat Hollande.
Oui, Claude ?
Oui, alors, pour être une petite question un peu précise, un peu particulière, qui va, à mon avis, revenir sur le devant de la scène, c'est Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que tu pourrais dire comment tu te positionnes par rapport à ce projet d'aéroport? Et puis, j'aurais envie de poser une question un peu plus générale, hein, mais très politique aussi, qui est-ce que tu penses que le capitalisme est compatible avec protection plus générale de l'environnement, alors pas simplement les gaz à effet de serre, la pollution, tout genre, tout ce que ça implique. Est-ce que tu crois au capitalisme qu'on appelle le capitalisme vert, la croissance verte? Quelle est ta position?
Sur la première question, sur Notre-Dame-des-Landes, j'ai une position qui est assez simple. Je suis depuis 2003 vice-président de l'ACAS, l'Association contre les rapports du Sud Toulousain, puisque peut-être que ce dossier vous dit quelque chose. Vers les années 2003, on nous a annoncé que l'aéroport de Toulouse-Blagnac allait être saturé, qu'il était impératif dans les plus brefs délais d'en construire un deuxième dans une grande ceinture toulousaine. Il y avait 8 sites à plus ou moins 20-30 km de Toulouse, et il y en avait deux qui concernaient l'Ariège. Donc il y a eu une association qui s'est monté pour lutter contre ce qu'on appelle maintenant un grand projet inutile. Et moi, j'en suis le vice-président depuis donc maintenant 12 ans, quelque chose comme ça. Donc moi, ma position, elle est très simple. Je ne pense pas que de la même manière que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit le réacteur EPR de Flamanville, que ce soit d'autres grands projets comme ça, on pourrait les lister, mais moi j'invite vos auditeurs à taper GPI, grand projet inutile et imposé, sur Internet, et ils verront la liste et verront que pas loin de chez eux, ou voire à très proximité, il y a encore des grands projets qu'on essaye d'imposer, et qui n'ont aucun sens par rapport aux défis qu'on a à relever. Le problème n'est plus aujourd'hui de développer l'aviation civile, le problème est de voir comment est-ce que cette aviation civile qui permet de transporter des touristes d'Europe, par exemple, qui ont envie d'aller en vacances de l'autre côté du monde, comment, et qui créent une économie là où ils vont, comment est-ce qu'on fait pour que ce transport soit le plus propre possible, voire quitte à être compensé financièrement en disant, ben voilà, monsieur, madame, vous avez pris votre billet d'avion, ça vous coûte tant de CO2, ben vous avez payé X euros de billet d'avion, on vous prend X euros pour compenser carbone et utiliser cet argent, ce qui devient un fonds, pour faire des projets. Et comment est-ce qu'on s'assure que l'économie touristique des pays qui reçoivent des touristes se fait dans des conditions qui sont respectueuses de l'environnement de ces pays-là, des conditions de vie de ces gens.
La fameuse taxe Chirac, excuse-moi de te couper, mais taxe Chirac, ça fait combien d'années là qu'il est parti, Chirac? Ça fait longtemps, on n'en parle plus de ça, par exemple.
La fameuse taxe, oui. Après, sur le deuxième, sur le capitalisme. Moi, je pense que le capitalisme est toujours assez intelligent pour retomber sur ses pattes. Mais, à nous, citoyens, de dire au capitalisme, et c'est la lutte historique qu'on a avec le capitalisme. Le capitalisme, si on lui laisse la bride sur le cou, je reprends volontiers cette image, il va où il veut et il court n'importe comment. Si le capitalisme, on lui met des règles, et si on remet, parce qu'on en a beaucoup supprimé au cours de ces 30 dernières années, des règles de fonctionnement pour ce capitalisme, et dans ces règles de fonctionnement, de lui dire... Le capitalisme, vous ou toi capitalisme, faisons une image enfantine, toi capitalisme, on te demande de tenir compte de l'avenir de la planète et donc tu vas pas continuer à gagner de l'argent en vendant des trucs qui abîment la planète, et ben le capitalisme, il retombera sur ses pattes, il fera du capitalisme vert. Après maintenant, à savoir comment on répartit le capital, qui détient le capital, c'est une question historique. Je suis pas plus intelligent que Marx, Engels ou tous les autres, ou tous ceux, ou tous les partis politiques. Moi, je pense que des outils de régulation de marché, on est capable d'en créer, à condition toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir de la volonté politique.
Je sais que toi, Claude, tu es très sensible aux questions environnementales. Question très simple, tu y crois, toi, à la COP21?
J'y crois. Qu'est-ce que ça veut dire? J'y crois. J'estime que c'est bien que ça se fasse, ça c'est clair. Mais quant au résultat, je n'attends pas grand-chose. Je n'attends pas grand-chose parce que j'estime que les gouvernements soutiennent de toute façon la croissance, une croissance économique, et que quels que soient les moyens, ils veulent cette croissance. Et personnellement, je ne pense pas qu'on puisse réellement inverser les désastres qui sont en train de se produire sur la planète si on ne renonce pas une bonne fois pour toutes à cette fameuse croissance. D'autant plus que si on se place sur un plan international, mondial, Il faut quand même se rendre compte que un cinquième de la population mondiale gaspille les 4/5 des énergies, des minéraux, des ressources naturelles. Mmh. Alors, si on se place dans un esprit de justice, je ne sais pas, enfin c'est un minimum, il me semble, si on pourrait penser que chaque pays a droit à consommer la même chose. Et ce qui serait, même si on restait au niveau où on est, au niveau des pays occidentaux, hein, de croissance, on dit croissance zéro, voilà, comme le club de Rome, mais ça serait absolument impossible, sur le plan international. Ça veut dire que pour que certains pays puissent avoir un niveau de vie décent, il faut que nous, pays occidentaux, on s'oriente délibérément vers une vraie décroissance. Moi, ce que je regarde, enfin bon, moi j'admire donc ton projet, je trouve très, moi je soutiens complètement. Maintenant, par rapport au, là on va se placer sur le plan politique, par rapport au vert, à un moment donné, le mot décroissance faisait partie du langage de ces partis, et je ne l'entends plus beaucoup. Et moi, en tant que citoyen et une personne engagée sur ces questions-là, je crois qu'on ne peut pas éviter, peut pas l'éviter, on ne peut décemment.
Jacques Arthuis, pourquoi les États s'engageraient aujourd'hui dans une voie qu'ils n'ont pas empruntée dans les années précédentes? Si on parle de 21e conférence, ça veut dire qu'il y en a eu 20 avant. Kyoto, tout le monde a au moins ça en tête, la conférence de Kyoto, de Nagoya, mais depuis...
Parce que, je vais prendre l'image suivante, quand on est en voiture, on peut essayer de faire des excès de vitesse, et puis il y a deux moments où on ralentit forcément, c'est quand on voit la répression sous la forme d'un radar ou de la police, et là on freine très fort, ou quand on risque l'accident, et là on freine encore plus fort. Et donc l'accident, on a déjà commencé à voir, l'accident planétaire est déjà engagé. On sait très bien, la durée de vie d'une molécule de CO2 dans l'atmosphère, c'est un siècle. Donc tout ce qui a été émis aujourd'hui, et depuis le début de l'ère industrielle vers 1850, va rester 100 ans dans l'atmosphère. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir si on va tenir les 2 degrés, parce qu'il nous semble que scientifiquement, 2 degrés, c'est à peu près supportable. Alors, je tiens à préciser pour vos auditeurs que 2 degrés, c'est pas, tiens, il fait un peu froid, j'augmente la température, il fait un peu frais. C'est 2 degrés par rapport à la moyenne de l'atmosphère, de la température terrestre, qui est de 15 degrés. Donc, vous faites le rapport, il ne faut pas le faire 2 par rapport à j'ai froid ou j'ai chaud, mais 2 sur 15. 2 sur 15, c'est colossal. Fait du 15%.
Juste pour situer, c'est un des enjeux majeurs de cette conférence, c'est de limiter de 2 degrés la hausse de température.
De limiter à 2 degrés. Et là, pour l'instant, ce serait le scénario le moins pire.
Mais à l'échéance de 2100.
À l'échéance de 2100 et si possible 2050. Mais on est à la fois, et c'est là où c'est difficile, peut-être à la fois à comprendre et à décider, c'est que on doit... Pour des effets de très long terme, parce que 2100, ça fait quasiment le siècle, prendre des décisions immédiates. Et pour répondre à votre question, pourquoi nous engagerions-nous? Parce qu'après tout, on peut être autiste, on peut même se dire, l'humanité a toujours réussi à s'en sortir, nos enfants, même sur une planète, excusez-moi le terme, de merde, ils réussiront bien à s'en sortir. Après, chacun fait son credo ou son catéchisme pour dire, comme... Chacun qui s'engage en politique a sa propre conviction, sa propre philosophie. Ma philosophie, à moi, c'est de dire, je pense que la situation est très grave et je pense que les décisions doivent être immédiates. Pourquoi les États s'engageraient-ils? Eh bien, je pense qu'ils vont s'engager parce que chaque État, à son niveau, va avoir les problèmes dus au réchauffement climatique. On parlait tout à l'heure de ces micro-pays dans l'océan Pacifique, où ils voient le niveau monter. De toute façon, il va falloir, à moyen terme, à une génération même pas, qu'ils quittent l'endroit où ils ont vécu. Il faudra bien qu'ils aillent quelque part. Il y a des pays qui vont disparaître de la carte.
Mais la Hollande.
Prenons, puisque c'est la Coupe du Monde de rugby et au-delà du résultat d'hier soir, le Tonga, c'est peut-être un pays qui aura plus de pays dans quelques temps. Donc, les effets les plus dramatiques sont déjà engagés. Donc, ou on est directement concerné, reprenons l'exemple du Tonga, ou on va être ceux qui vont être indirectement concernés, et à ce moment-là, effectivement, on peut faire l'autruche en disant « c'est pas moi, je m'en fiche », ou on peut, Et là, le militant politique a une philosophie, on peut dire, et un militant politique a souvent une philosophie qui est vers là, en tout cas en Europe Écologie des Verts, c'est de réfléchir non plus en termes de parti politique, non plus en termes de pays, non plus en termes de génération, mais en termes d'humanité. Je pense que nous en sommes, nous les êtres humains, arrivés au moment où il faut penser en termes d'humanité. Et l'humanité, c'est pas 7 milliards de personnes, c'est 7 milliards fois une personne.
On arrive bientôt au terme de cette émission. On va retenir ce terme, citoyen au départ, humanité là sur la fin. C'est ça le sens vraiment de ton projet, la chevauchée pour le climat, le message que tu veux porter à Paris la fin novembre.
Oui, c'est un sens. Et si je reviens, parce que les chevaux sont importants dans cette histoire, l'humanité a fait aussi toute une partie de son histoire avec les chevaux et grâce aux chevaux, que ce soit des chevaux pour les nourrir, des chevaux de labour, que ce soit des chevaux de transport, il en existe encore. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 3/4 des agriculteurs dans le monde utilisent, ceux qui ont des animaux, utilisent des chevaux beaucoup plus que des tracteurs agricoles mécaniques. Et le cheval, parce que l'humain est comme ça, et on s'est servi aussi d'un cheval de guerre. Aujourd'hui, on retrouve de plus en plus dans les villes, des cas avec des chevaux qui servent à ramasser les ordures. On a des polices montées pour surveiller des forêts ou des manifestations et on a l'emblématique dans notre filière qui est la garde républicaine, bon, qui a son histoire aussi. Et pour ceux qui ont déjà vu défiler la garde républicaine, c'est quand même assez joli à voir avec des gars qui ont des costumes parfaitement en état.
Tu as parcouru quoi là, le tiers?
On a couru une semaine et on a encore une, deux, quatre, on a encore 5 semaines à faire.
5 semaines, ouais.
On a fait quoi, 6 jours à 30 km, grosso modo, c'est ça.
Donc encore beaucoup de routes. La suite maintenant, c'est quoi? Tu te diriges vers quelle région?
Demain, je vais à Najac. De Najac, je monte à Limogne-en-Quercy. De Limogne-en-Quercy, je vais à Durban. À Marcillac-sur-Céré. Après à Durban, après à Rocamadour. De Rocamadour, je suis à l'envers le chemin de Saint-Jacques jusqu'à Bénévent. Après, je rentre dans la région centre. Je m'arrête à La Motte-Beuvron, qui n'est peut-être pas connu de vos auditeurs, mais qui est connu pour sa tarte tatin, qui est au sud d'Orléans et qui surtout est l'endroit où la Fédération française d'équitation a son siège, a ses bureaux et surtout il y a le parc équestre fédéral où de là on fera le départ à Paris pour essayer de donner le maximum d'audience à cette chevauchée en étant, je l'espère, chaque jour plus ou moins rejoint par des cavaliers qui voudront faire un bout de chevauchée.
On peut suivre ton trajet sur Internet,
on tape Chevaucher pour le climat, il y a un blog, il y a une page Facebook, il y a un Twitter, et on peut aussi le suivre pour les cavaliers qui nous écoutent sur le site de la Fédération française d'équitation, dans la rubrique Tourisme équestre.
L'idée, c'est d'arriver à Paris, mais sur le chemin, de rencontrer, de discuter, d'échanger avec les gens.
Voilà, d'échanger avec les gens qu'on rencontre et d'être rejoints, qui par des piétons, qui par des gens à vélo, qui par d'autres cavaliers, pour 1 km, 1 heure ou 1 journée, faire que voilà, on crée du lien. Parce que c'est en créant du lien qu'on crée l'humanité, enfin qu'on créera notre humanité telle que je la vois pour après. Pas une humanité qui a besoin de marcher sur son voisin pour exister, mais une humanité qui fera tout ensemble autour de la même planète et on accède là.
Tu as créé des liens déjà à Cordes le week-end dernier, c'était donc sur les pavés à la table de la rue sans nom, tu as rencontré des battus avec plusieurs personnes. Mais écoute, on te souhaite une bonne chevauchée.
Merci beaucoup.
Et que ton message soit entendu hein, là-haut.
Mais il n'y a pas que le mien qui sera entendu, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être émis.
Claude Le Guéranic était avec nous. Claude, merci d'être venu.
Avec plaisir.
Et puis Jacques Arthuis, qui était également avec nous dans ce magazine. Je rappelle son projet, La Chevauchée pour le climat. Allez sur Internet, très intéressant à regarder. Merci Jacques d'être venu nous voir. Et puis bonne route à toi. On n'a pas dit, juste avant de partir, parce qu'on a oublié de parler de deux personnes très importantes pour ce projet, les chevaux.
Oui, alors de plusieurs personnes, parce que déjà la première semaine, j'étais accompagné d'Émilie qui montait un filou et de Audrey qui montait One Way, leurs chevaux respectifs, qui doivent interrompre pour des raisons professionnelles, mais qui me rejoindront justement à La Motte-Beuvron pour faire la dernière semaine. Quant à mes chevaux, ils s'appellent Lao Kie, qui est un grand cheval bai, c'est la couleur marron avec les crins noirs, et un plus petit cheval noir qui s'appelle Nomade. Mais on retrouve leur portrait sur notre site Facebook.
Très bien.
Notre page Facebook.
Merci messieurs d'être venus dans le MAG. Le MAG du Tarn sur CFM, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence.